glorifié. Et tu sais combien nos cœurs t'aiment, Seigneur. Tu sais combien nous, bien sûr, nous aimons te louer, mais c'est parce que notre amour déborde de nos cœurs et ça te réjouit, Seigneur. Et nous, nous réjouissons de pouvoir avoir cet accès à toi, de pouvoir avoir cet honneur de nous tenir devant toi, chacun et ensemble. Merci encore aussi pour ta parole de vie, pour ta parole qui nous rafraîchit jour après jour, qui nous nourrit, qui nous fortifie. Que nos cœurs vraiment puissent la recevoir aujourd'hui et qu'elle porte du fruit. Amen. Donc je vais d'abord donner quelques généralités sur les paraboles et l'intention de Luc dans son évangile. Puis nous verrons la parabole en elle-même. C'est la parabole de Luc qu'on trouve dans Luc 18, chapitre 1 à 8, celle qu'on appelle celle du juge inique souvent. C'est le nom qu'on lui donne. Aujourd'hui, on l'appellera celle de la veuve persévérante. Et puis les applications pour nous aujourd'hui avec des témoignages qui m'ont frappée, qui m'ont marquée et que j'aimerais aussi vous partager. D'abord, qu'est-ce qu'une parabole ? Le mot parabole vient du grec parabolé, qui signifie comparaison. En hébreu, c'est le terme machal, qui veut dire énigme. C'est donc un enseignement fondé sur une comparaison, une métaphore, ou qui est introduite sur le mode typiquement hébraïque du ce qu'on appelle du kal vaomer. À plus forte raison. Plusieurs fois, on a ça dans les paraboles, une image que Dieu donne, que Jésus donne, et puis il est ajouté à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux, a fortiori. Les paraboles sont en général faciles à mémoriser et elles appellent à une mise en pratique. Ça, c'est pour les paraboles. Pour l'évangile de Luc, c'est un des trois évangiles synoptiques. Synoptique, ça veut dire qu'il donne une vue générale. Donc ces trois évangiles nous donnent une vue générale sur la vie de Jésus incarné. Il y a Matthieu, Marc et Luc. Luc est un médecin, un historien d'origine païenne. Il n'a pas connu Jésus, mais il a interrogé de nombreux témoins qui ont vécu avec lui. Et il était aussi le compagnon de l'apôtre Paul. Il a écrit deux livres, un évangile et le livre des Actes, à peu près dans les années 60. Et son but était de démontrer à son ami Théophile la véracité des faits autour de la vie de Jésus. C'est comme ça que commencent l'évangile et les Actes. Dans son évangile et dans le livre des Actes, Luc va insister sur trois points en particulier. Chaque évangéliste a un objectif spécial quand il écrit son évangile. Et donc, pour l'évangile de Luc, il y a trois points qu'on relève particulièrement. Le premier, c'est l'accent sur les pauvres, sur les méprisés. Les bergers, on voit que les premiers qui entendent la nouvelle de l'annonce de la naissance de Jésus, ce sont les bergers. Les bergers étaient tellement méprisés qu'ils n'étaient même pas dignes de témoigner dans un tribunal. On ne les croyait pas. Les lépreux, les collecteurs d'impôts, les pêcheurs notoires, les samaritains, les femmes, Luc en mentionne 10 de plus que les autres évangélistes. Les enfants, les païens. Luc a choisi de rapporter plusieurs paraboles aussi avec la sagesse dans la gestion des richesses et la générosité, en lien avec la justice, justement en faveur des pauvres. Il montre Jésus comme le serviteur de l'Éternel, choisi par Dieu, qui accomplit les promesses de l'Ancien Testament pour libérer le peuple, qui va être rejeté par les Juifs, mais qui va offrir le salut aux païens. Ça, c'est le premier point. L'attention que Luc souligne, est l'attention de Jésus pour les pauvres, pour les rejetés et pour toutes les nations, pour les païens dans toutes les nations. Un second accent qu'on retrouve chez Luc, c'est l'importance de la prière. Il montre plusieurs fois Jésus ayant prié la nuit ou à des moments cruciaux, comme par exemple avant le choix de ses disciples, il passe la nuit en prière. Il insiste vraiment sur la place de la prière dans la vie de Jésus, 7 fois plus que dans les autres évangiles. Et le troisième accent que Luc donne à son évangile, c'est l'action de l'Esprit-Saint. On le voit dès la conception de Jésus, on voit l'annonce aussi de Jean-Baptiste au baptême de Jésus, le Saint-Esprit qui conduit Jésus, le Saint-Esprit qui donne la joie, qui donne les paroles pour se défendre, qui donne la puissance d'en haut, on voit ça dans les Actes. Il est aussi le guide qui conduit Paul et les disciples, qui donne des songes, des paroles, qui guérit, qui convertit, qui ouvre le cœur. Le rôle du Saint-Esprit dans Luc a une grande importance. Voilà donc pour les généralités sur les paraboles et les spécificités sur Luc. L'attention aux petits, aux méprisés, l'accent sur la prière et l'accent sur le Saint-Esprit. Voyons maintenant la parabole en elle-même et nous allons lire Luc 18, versets 1 à 8. C'était marqué versets 2 à 8 dans le planning, mais je suis partie depuis le début. Le verset 1 est trop important, les versets 1 et 8 sont trop importants pour les rater. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager ou sans se lasser, disent d'autres versions. Il dit « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne ferait-il pas justice, ou à plus forte raison, Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, comme on l'a chanté tout à l'heure. Les fera-t-il attendre ? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. D'autres versions traduisent promptement, ou à l'inverse, il temporisera. On va en parler. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Souvenez-vous de cette dernière partie. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? On appelle souvent cette parabole la parabole du juge inique, ou du juge injuste, ou indigne, ou aussi de la veuve importune. Et je trouve que ce mot, la veuve importune, a un peu une connotation négative. Mais je préfère le titre qui a été choisi dans le planning des prédicateurs, et peut-être c'est toi, Michael, je pense, la veuve persévérante. Je la qualifierai aussi de veuve courageuse, tenace, pour ne pas dire coriace. Elle est l'exemple même de la pauvreté extrême, mais elle sait que sa demande est juste. Elle sait qu'elle est dans son bon droit, ce qui lui donne une détermination à toute épreuve. Nous allons voir d'abord le contexte qui va nous aider à saisir le sens de cette parabole. Au chapitre 17, on voit Jésus, donc avant la parabole, on voit Jésus qui monte à Jérusalem où il sait qu'il va souffrir. Nous retrouvons sur le chemin son attention pour les méprisés. Il guérit 10 lépreux, mais un seul vient le remercier, un Samaritain, que Jésus va déclarer juste alors qu'il fait partie des méprisés. Puis, les pharisiens ne reconnaissent pas en lui le Messie, lui demandent « Quand viendra le royaume de Dieu ?» Et Jésus de répondre « Il est déjà là. » Sa justice est déjà en cours. Il parle aussi de ses souffrances avant son départ et de son retour qui viendra de façon soudaine. On a tout ça dans le chapitre 17. Et afin que ses disciples ne croient pas n'importe quel charlatan qui va dire venir en son nom, il appelle ses disciples à la vigilance. Et puis, chapitre 18, il continue avec cette parabole. Les premiers et les derniers versets, 1 et 8, entourent ce texte comme des clés pour mieux la comprendre. Ils nous donnent d'emblée, au verset 1, un premier sens, « Gardez courage pour tenir ferme dans la prière, pour persévérer dans la prière, pour la justice, la défense du peuple de Dieu. » Voyons maintenant l'histoire. Une veuve, très vulnérable, il n'y avait pas de sécu à l'époque et de retraite, donc elle n'avait rien pour vivre. Méprisée, elle subit une injustice face à un monstre d'égoïsme orgueilleux qui ne craint ni Dieu ni homme. A priori, elle ne peut pas gagner. Elle n'a même pas les moyens de le corrompre, ce qui était très courant à l'époque. Et pourtant, elle va gagner. Elle gagne grâce à sa confiance en son bon droit et à son obstination. Elle sait que ce qu'elle réclame est juste et elle persiste. Il n'y a pas de justice sans vérité. Elle est dans son bon droit et elle persiste. Il n'y a pas de justice sans vérité. Elle persiste et elle atteint le juge dans son point faible, son égoïsme. La traduction littérale dit « elle lui casse la tête ». La ténacité sans faille de cette femme a eu raison du mépris de cet homme et de son égoïsme. La suite va être sur le mode « à plus forte raison », « a fortiori », qu'on trouve aussi dans Luc 11, dans le même évangile, avec cette parole, vous devez la connaître, « méchants comme nous le sommes », c'est après le Notre Père, « méchants comme nous le sommes », nous ne donnerons pas une pierre à notre enfant qui nous demande du pain, ou un serpent s'il nous demande du poisson. Alors, à combien plus forte raison le Seigneur, notre Père Céleste, donnera le Saint-Esprit à ses enfants. Notons que Matthieu, dans la même parabole, va dire « le Père donnera de bonnes choses à ses enfants ». Mais Luc dit « le Père donnera l'Esprit Saint à ses enfants. » À nouveau, cet accent de Luc sur l'Esprit Saint. Si le juge a fait justice à cette veuve, à combien plus forte raison Dieu défendra les droits de ceux qu'il a choisis, qui crient à lui jour et nuit. Je m'arrête sur le promptement qui a posé question à certains chrétiens qui, dans une lecture littérale, attendaient que Dieu donne une réponse rapide à leur prière. Le mot original pour traduire ce promptement peut avoir deux orthographes et deux sens, presque contraires, mais on va voir. Certains théologiens utilisent « promptement » en référence au sacrifice de Jésus qui est proche et qui va établir la justice par sa mort et sa résurrection. D'autres vont le remettre en question, donc utiliser la deuxième orthographe, parce que le contexte ne le valide pas. Le juge diffère sa réponse. Et donc, ils vont traduire en disant « Dieu ne fera-t-il pas justice tout en différant son jugement ?» Et cette traduction est aussi validée par Luc 17, 22, où Jésus parle de son retour et il dit aux disciples « Vous désirerez le voir » et vous ne le verrez pas, parce qu'il y aura justement un temps d'attente. En tout cas, si Dieu paraît tarder dans la délivrance des siens et dans le châtiment de ses adversaires, ça n'est pas parce qu'il est sourd, mais il fait preuve de miséricorde, comme nous le dit aussi 2 Pierre 3, 9 à 12. J'ai raccourci un peu. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent. Il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Quelle que soit la traduction choisie, l'appel de Jésus vient pour nous au verset 8, qui commence par un « mais » et qui ne peut pas ne pas nous interpeller. Trouvera-t-il encore la foi sur la terre quand le Fils de l'homme viendra? Trouvera-t-il encore des chrétiens qui continuent à le supplier pour que son règne vienne, pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Jésus nous renvoie à nous-mêmes. La balle est dans notre camp. Dieu ne peut pas ne pas faire justice à son peuple qui souffre. Même s'il semble lent, il fera justice à son peuple méprisé par l'ennemi. Et nous savons que depuis le moment où Jésus a donné de cette parabole, on est dans le « déjà », ce que les théologiens appellent le « déjà » et le « pas encore ». On est dans le « déjà ». Dieu a déjà fait justice en Jésus mort sur la croix et ressuscité. Et notre part est de persévérer dans la prière sans nous décourager, pour qu'un plus grand nombre vienne à la repentance, qu'un plus grand nombre puisse bénéficier de cette justice accomplie en Christ, et que le royaume de justice s'installe de plus en plus. Je résume un peu. Luc porte une attention particulière aux petits, aux méprisés, et au fait que Dieu en prend soin et leur fait justice. Cette justice est déjà accomplie en Christ, et en même temps, notre Dieu miséricordieux patiente, car il veut sauver un grand nombre. Qu'est-ce que ça implique pour nous? Quelles applications pratiques dans notre quotidien? Il nous appelle à prier, à persévérer dans la prière, sans nous décourager, avec l'assurance qu'il agit pour établir sa justice. Quelle raison pourrait nous amener à cesser de prier, à être découragés? Jésus nous interroge. Et je vous interroge. Quelle raison pourrait nous amener à cesser de prier? À un moment donné, on n'y croit plus. Le découragement dans la durée. Et il suggère justement, vous avez donné les deux réponses justes, et les deux réponses se complètent. Il suggère justement par sa dernière question que notre découragement vient de notre manque de confiance dans le fait que Dieu va répondre, que Dieu va faire justice. Sommes-nous des chrétiens qui nous interrogeons ainsi? Où est la victoire promise par Dieu? Ou alors est-ce que nous pensons que Dieu n'entend pas les appels et les prières de son peuple? Sommes-nous de ceux-là? Pourtant, Dieu a déjà répondu à notre attente. Le malin, la mort, le péché sont vaincus. En Jésus, le Fils de Dieu, crucifié et ressuscité, avec la présence de l'Esprit-Saint répandu sur le monde, nous avons l'assurance de la victoire. N'est-ce pas ce qu'on a chanté tout à l'heure? Nous avons l'assurance de la victoire. On est dans le déjà et en même temps le pas encore, parce que la victoire définitive n'apparaît pas encore, mais le règne de Dieu, son règne de justice, est déjà parmi nous. Est-ce que nous le croyons? Si oui, alors nous pouvons continuer à prier avec confiance, avec ténacité, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ta justice soit faite. Si notre foi, notre confiance en le Dieu juste sont restées intègres, nous ne pouvons pas ne pas continuer à prier. Nous ne pouvons pas nous décourager si notre confiance et notre foi sont intègres. C'est notre foi, notre confiance dans le fait qu'il est le Dieu juste et qu'il a déjà accompli cette justice en Jésus, qu'il continue à le faire aujourd'hui, et qu'il établira dans l'éternité son règne de justice, qui nous donne ce courage pour persévérer. Foi et courage pour persévérer dans la prière sont indissociables. Même si la réponse à nos prières se fait attendre, prenons courage, sa justice viendra, alors persévérons. Saint Augustin écrivait « Lorsque la foi s'éteint, la prière cesse. » Croyons donc tout d'abord afin de pouvoir prier. Ayons confiance afin de pouvoir prier. Et pour que la foi elle-même ne s'éloigne pas de nous, prions sans cesse. La foi produit la prière et la prière, à son tour, obtient l'affermissement de la foi. On a déjà parlé de ces spirales de croissance et on en retrouve très souvent dans la parole de Dieu. est dans nos vies. Et là, je reviens au message d'il y a deux semaines sur la prière, dont, bien sûr, tout le monde se souvient, évidemment. Vous rappelez comment nous avons défini la prière ? Comme un cadeau. Comme un cœur à cœur avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme une discipline spirituelle, ou plutôt comme un moyen de grâce. Un moyen par lequel Dieu déverse sa grâce sur nous, sur l'Église et sur ce monde. On l'avait défini aussi comme une relation continuelle et croissante d'amour avec Dieu, nourrie par la méditation de la parole, motivée par notre amour et notre obéissance à un Père généreux, fiable, tout-puissant, qui aime donner et porté par la foi venant de la parole entendue de Dieu. Ça résume 30 minutes à peu près. Vous voulez que je répète ? Non ? Ça va ? La prière et la parole nourrissent notre foi, notre confiance. Est-ce que nous sommes intentionnels dans notre façon, dans notre manière, tu peux mettre la suivante s'il te plaît, dans notre manière de nourrir notre foi, notre confiance en un Dieu juste et miséricordieux, qui attend qu'un maximum vienne à la repentance. Quelle intentionnalité dans notre vie de prière ? Qu'avons-nous instauré dans notre quotidien pour garder foi en ce Dieu généreux et juste ? Quelle routine, quelles habitudes avons-nous mises en place pour nourrir notre foi, notre confiance ? J'étais invitée à la dernière assemblée plénière du CNEF, début décembre, et un pasteur qui s'appelle Manu Renard, peut-être vous avez déjà entendu par lui, a témoigné. Il était invité à témoigner par les responsables du CNEF, et il est intervenu aussi ce jeudi dernier, je ne sais pas si vous l'avez entendu, dans une masterclass sur le thème des ministères alimentés à la source intarissable. C'était le titre de la masterclass. Et je vous donne ces témoignages parce que ces témoignages parlent d'une idée qui m'interpelle depuis des années et que je n'arrivais pas à concrétiser. Donc, il raconte que jusqu'à ses 40 ans, tout se passait bien dans son ministère, c'était fructueux et il était satisfait. Mais il savait bien qu'au fond de lui, quelque chose le gênait et il savait très bien que c'était la qualité de sa vie de prière. Et il ajoute que ça ne datait pas d'hier. Il voulait aller vraiment vers une prière continuelle, une communion ininterrompue avec Dieu. Et donc, il a pris le taureau par les cornes. Et l'expression n'est pas trop forte, vous allez voir. Il a instauré dans son quotidien des temps de prière plus réguliers et plus conséquents, matin, midi et soir, tout en ayant très peur de ne pas pouvoir faire son travail. Mais il a obéi. Et il a été surpris du résultat. Il raconte qu'il travaille toujours, autant, mais pas plus. Et qu'il se voit souvent maintenant comme dans un fauteuil, comme un spectateur à regarder l'œuvre de Dieu. Il est devenu spectateur de ce que Dieu fait. Et son témoignage venait confirmer ce que j'avais écouté quelques jours auparavant sur RCF, par hasard, sur la vie d'un prêtre de Chambéry. Je pourrais vous donner les liens si vous voulez écouter ça, si vous le souhaitez. Ce prêtre raconte, c'est le prêtre du diocèse central de Chambéry, ça s'appelle pas le diocèse, de la paroisse centrale de Chambéry. Mais il n'a pas qu'une paroisse, il a dit qu'il avait 17 paroisses, je crois. Donc ça, c'est, le mot diocèse n'est pas juste, mais je ne sais plus comment on appelle ça. Il raconte qu'il a un planning bien rempli avec les réunions, il est responsable de toute l'animation de la paroisse, des formations et des visites. Il précise pourtant que la première mission du prêtre et du chrétien, et je le cite, c'est Écoute Israël. Pour aimer Dieu et notre prochain, ça passe par écouter Dieu, accueillir ce qui vient en nous, se laisser aimer par Dieu, être transformé à l'intérieur, pour ensuite aller dans le monde et donner ce qu'on a reçu. Je répète, écoute Israël. Pour aimer Dieu et notre prochain, ça passe par écouter Dieu, accueillir ce qui vient en nous, se laisser aimer par Dieu, être transformé à l'intérieur pour ensuite aller dans le monde et donner ce qu'on a reçu. Et puis, l'émission interroge 3 prêtres et ça dure un peu plus d'une heure, mais je ne parle que de ce prêtre-là. Il est interrogé sur la façon dont il se ressource et il explique qu'il avait l'habitude de prendre une journée off le lundi, plus 3 jours une fois par mois, et que chaque jour, il priait 1 heure le matin. Il avait 1 heure d'oraison le matin. Et puis, il a compris que le Seigneur lui demandait une deuxième heure dans la journée. Une deuxième heure d'oraison. L'oraison, c'est vraiment un temps de silence et d'écoute avec Dieu, où on se laisse aimer par Dieu. Je cite tout ce qu'il dit là. Hein. Et il dit qu'il a discuté avec le Seigneur en disant « Mais c'est pas possible, Seigneur, j'ai trop de travail. » Et c'est comme si le Seigneur lui avait répondu « Essaie. » Et tu vas voir ce que je vais faire. Il dit, j'ai essayé, et très vite, ça a changé énormément de choses. Alors qu'avant, j'étais saturée, je prenais beaucoup de temps pour les détails. Là, c'est comme si les détails se réglaient d'eux-mêmes et les gros problèmes s'apaisaient tout seuls. J'étais très étonnée. Et devant son étonnement, il s'est remis à l'écoute de Dieu et Dieu lui a dit, ta mission, c'est de m'écouter, de te mettre à mon service. Et non pas de faire ce que tu penses qui est bon, mais de me laisser faire et de m'accompagner là où je vais. Ça renverse toutes nos valeurs. Hein. Et il ajoute, c'est magnifique. Alors je dis encore avec moins d'enthousiasme que lui, mais la mission quotidienne devient une vraie prière. Ça remet les choses à leur place. Quand on est dans l'activisme, c'est souvent par nos propres forces. Mais quand on se force à prendre 1 heure, alors qu'on a plein de travail, ça rappelle que c'est la mission de Dieu et non pas la nôtre. Ça réajuste plein de choses. C'est la mission de Dieu et non pas la nôtre. Vous imaginez bien que ça m'a interpellée, d'autant plus que le matin même du jour où j'ai écouté cette interview sur RCF, je réalisais que j'avais la tête qui débordait de plein de choses, que j'avais du mal à tout gérer et que mon corps ne suivait plus. J'avais posé la même question au Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour me ressourcer ? Alors, en écoutant ça, c'était, Jessica, ça va te faire sourire, c'était dans une journée ressourcement à Champfleury. Le thème de méditation le matin, j'avais pris le psaume 131, c'est pas écrit ça dans mon texte, mais j'avais pris le psaume 131 avec « Je suis comme un enfant sevré, comme un enfant rassasié sur le sein de ma mère ». Et là, en lisant ce psaume, je ne me sentais pas du tout comme un enfant rassasié sur le sein de ma mère. Je sentais ma tête qui débordait et mon corps fatigué. Et ma prière, ça a été « Seigneur, montre-moi comment me ressourcer ». Et le soir, je monte dans la voiture et j'entends cette émission de radio sur RCF juste au moment où ce prêtre parlait de ce ressourcement. J'étais scotchée. C'était comme si le Seigneur, dans cette émission, répondait à ma question du matin. Et le témoignage du pasteur à l'Assemblée du CNEF quelques jours plus tard, bien sûr, n'a fait que confirmer. Donc, j'ai inscrit ces temps de ressourcement dans mon agenda. J'ai tenu quelques jours, puis espacé progressivement. Repris, puis espacé. Vous ne faites jamais ça, hein, ça ne vous arrive jamais de faire ça quand vous prenez une bonne résolution. Et puis, lundi soir, lundi de cette semaine, il y a 6 jours, j'ai compris en fait, dans un temps de prière, que si je n'arrivais pas à garder ces moments en journée, c'est parce que j'avais peur. J'avais peur de ne pas pouvoir faire tout mon travail. Donc je ne voulais pas m'arrêter et je continuais à faire mon travail. Et comme j'ai compris ça lundi soir, ben mardi, j'ai recommencé. et j'étais paniquée intérieurement. Je vais vous dire pourquoi j'étais paniquée. Je n'avais pas encore commencé ce message, alors que d'habitude, je commence les messages 3 semaines avant. Mais là, il y avait eu tellement de choses que mardi midi, je n'avais pas commencé ce message. J'étais paniquée, mais j'ai quand même décidé d'obéir parce que j'ai voulu faire confiance à Dieu. Vous vous rappelez, plusieurs fois j'ai déjà dit, le remède à la peur, c'est la confiance. Le remède à la peur, c'est la confiance. Et c'est la confiance qui porte ma prière. Ne crains pas, crois seulement. On a souvent cette parole-là. Et cette semaine, je vous assure que je l'ai expérimentée très concrètement. Je me suis arrêtée mardi pour prier. Et d'autres jours aussi. Et ce message est venu confirmer ce message sur notre veuve courageuse et déterminée est venu confirmer ce que je pensais par cette interaction entre la foi et la prière. La foi qui me pousse à prier. La foi qui me donne le courage de tenir dans la persévérance. Je manquais de confiance. J'avais peur, j'étais paniquée de ne pas pouvoir faire mon travail. Je manquais de la confiance en Dieu qui m'aiderait à faire ce travail. Et malgré l'appel répété du Seigneur, je ne prenais pas plus de temps avec lui par peur de ne pas pouvoir tout faire. Et là, j'ai osé lui faire confiance, poser ses temps à midi et ça change déjà. Alors à midi ou un peu plus tard dans la journée, en fonction de... J'ai fait ce message en 3 jours, alors que d'habitude je m'y mets 3 semaines avant. Alors c'est surtout pas un exemple à suivre, hein. Mais c'est pour montrer combien Dieu honore notre confiance, combien Dieu est capable de nous donner bien au-delà quand nous ne vivons pas sa mission comme la nôtre, mais quand nous gardons bien le fait que sa mission est la sienne et pas la nôtre. Et je ne sais pas comment, je découvre ça, c'est cette semaine, mais je vous en dirai plus dans quelques temps, parce que je vais essayer de persévérer vraiment. Je ne vais pas essayer, je vais persévérer. Je ne sais pas comment aujourd'hui vous pouvez appliquer ça concrètement à votre vie. Je ne sais pas comment nous pouvons tous donner plus de temps dans notre vie à la prière. Et souvent, ça nous fait peur. Et je n'ai pas de réponse toute faite. Je pense juste qu'on peut commencer progressivement, qu'on peut apprendre de plus en plus dans ces temps de silence, dans ces temps d'écoute, de présence à Dieu, où on se laisse aimer et transformer. Et dans cette écoute, bien, le Seigneur nous montrera à chacun comment avancer. C'est un véritable acte de foi pour vaincre nos peurs. Peut-être aussi il y a le manque d'envie, mais là aussi c'est un acte de foi. Et les réponses rapides et surprenantes nous encourageront à persévérer. Nous lutterons dans la prière contre les injustices. Les nôtres, d'abord, le péché dans notre vie, dans l'Église, dans le monde. Par la prière d'abord, et puis par l'exemple. Je termine avec Habacuc 2 et 3. Il y a des versets tirés du chapitre 2 et d'autres du chapitre 3. « Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. » Celui qui est sur la tour, c'est celui qui observe et qui prie, c'est la sentinelle. Je veux veiller, il a fait plein de demandes au Seigneur, parce qu'il ne comprend pas ce que fait le Seigneur. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes doléances. L'Éternel m'a répondu, il a dit, mets la vision par écrit, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin. J'ai choisi cette citation parce qu'elle parle aussi du retour de Christ, comme dans Matthieu 17. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. Là, j'avais l'impression d'entendre parler du juge et de la veuve. Puis Habacuc, dans la suite, voit le jugement de Dieu et termine en disant « Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes hauteurs. » Et vous savez quoi ? Les biches qui marchent sur les hauteurs prennent des passages qui semblent complètement inaccessibles. Dieu leur a donné une agilité qui leur permet de passer là où n'importe quel autre animal ne peut pas passer. Il nous donne des qualités inimaginables pour travailler à l'avènement de son royaume de justice. Alors comme Habacuc, comme cette veuve, n'hésitons pas à importuner Dieu, à l'interpeller sur les injustices, surtout si nous avons l'impression qu'il n'entend pas. Persévérons et nos cris deviendront des éclats de joie. Il veille sur sa justice et l'éclatera au temps voulu. Le Seigneur de l'Église est le seul parfaitement juste. Il ne méprise pas son Église. Elle n'est pas une pauvre veuve vulnérable. Elle est l'épouse du Christ, le Seigneur élevé au-dessus de tout. Je termine en reprenant le verset 1. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier, sans se décourager. Le verset 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Avertissement salutaire. Que répondons-nous ? J'ai envie de répondre un grand oui, sans aucun doute. Si nous n'avons pas peur de prendre le temps de nous arrêter pour l'écouter, nous laisser aimer et transformer dans sa présence, dans la confiance qu'il mène sa mission à bien. Je nous laisse quelques minutes de silence et je vais prier.